Chapitre 31. Anna. Ma visite à Nabila a été éprouvante. Elle se bat, plaisante, s'intéresse à nos petits problèmes. Mais la maladie est puissante. J'avais revêtu mon masque de positivité, celui que j'ai usé jusqu'à la corde lorsque j'accompagnais mon fils à la fin de sa vie. Nabila n'est pas dupe, mais elle accepte les bonnes ondes. Elle m'a remercié, a fait une blague sur mon amour des gens mal en point, qui confinerait selon elle à la pathologie perverse, et puis je l'ai serré fort. Avant de partir, elle m'a gratifié d'un laïus qui m'a retourné l'âme. « Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tout le monde pleure en sortant de chez moi. Parfois, je préférerais qu'on chiale ensemble un bon coup et puis qu'on reparte du bon pied. Ce n'était pas mon choix de choper ce putain de cancer généralisé. Mais c'est mon choix de finir ma vie comme ça. Et je suis heureuse qu'il soit respecté. D'ailleurs, j'ai un truc à te demander. Je m'attends à quelque chose de sérieux, mais c'est mal la connaître. Promets-moi que tu veilleras à ce que personne ne donne mon prénom à son caniche en guise d'hommage. Je me méfie de Bérénice qui en serait capable. Et puis, j'aimerais que tu passes remonter le moral de mon petit Côme de temps en temps. Il est bien trop sujet aux maladies vénériennes des yeux en ce moment. J'ai promis. Mais lorsque je suis sortie de chez elle, j'avais le cœur en miettes. J'ai donc décidé d'accrocher son sourire dans un coin de mon cerveau et cette image a accompagné ma journée. Quelques heures plus tard, entre deux patients, le sourire de Nabila a soudain percuté une idée un peu dingue, une folie qui lui irait comme un gant. Cette idée ne serait réalisable qu'avec l'aide d'Hanson, alors même si ça ne m'enchantait pas des masses, j'ai décidé de lui téléphoner. Je n'étais plus sûre d'avoir le bon numéro car il n'a pas décroché et aucun répondeur ne s'est enclenché. Il a rappelé 5 minutes plus tard depuis un fixe sur mon téléphone du cabinet, m'expliquant avoir des soucis avec son smartphone en ce moment. Peu m'importait ses histoires de télécom, je suis allée droit au but. Il a réfléchi un instant, et contre toute attente, il a accepté avec enthousiasme. Je crois que je l'ai peut-être mal jugé au fond. C'est donc dans un état de grande excitation que j'appelle Diego et lui lance « Je viens d'avoir une idée ». Lui aussi est tout de suite emballé, mais je lui dois quelques précisions. Il y a quand même 2 hic, l'argent qu'il faudra réunir et la date.
Pour l'argent, on va trouver une solution. Je peux payer pour Nabila, Axel, toi et moi. Et je pense que Bérénice et Côme pourront régler leur part, non?
Oui, tu as raison. Sauf sur le fait que tu payes pour moi. C'est bien évidemment hors de question. Sinon, pour ce qui est de la date, la seule option, c'est dimanche prochain. Un temps, à l'autre bout du fil.
Tu sais bien que c'est la veille de mes épreuves à Cologne. J'ai déjà mon billet d'avion au départ de Marseille pour le dimanche matin, après mes 2 jours chez toi. Il n'y a pas d'autre possibilité?
Le créneau suivant est dans 3 mois. Mais dans 3 mois, Nabila... Je n'ai pas la force de continuer ma phrase. Diego réfléchit un long moment, puis il finit par dire...
Je pourrais sans doute partir d'une autre ville et reporter mon départ au dimanche soir. Mais en cas de problème, je n'aurai plus de marge de manœuvre.
Diego sait comme moi qu'il s'agira sûrement de l'ultime grande aventure des extraordinaires au complet. Il est impensable qu'il n'en fasse pas partie. Et c'est d'ailleurs sa conclusion qui me met en joie.
Ok, je prends le risque, on y va. C'est d'accord. Je te laisse prévenir les autres et demander à la famille de Nabila de garder le secret tout en la tenant prête pour dimanche matin. On doit y être à quelle heure?
14h.
Il faudra donc qu'on se rejoigne tous à 4h du matin et qu'on passe chercher Nabila à 5h. Ça va pas être facile à lui faire avaler.
Le voyage a été épique, mais nous voulions le partager tous ensemble, ce dernier trajet. Alors nous avons loué un van, comme à Tenerife, et nous nous sommes relayés au volant. Nabila étant la seule à ne pas connaître la destination, elle n'a pas cessé de râler, de nous lancer toutes sortes d'insultes marseillaises à base de couillons, d'estras, de bordis, de cabestrons et autres culs cousus. Mais elle avait un tel sourire sur les lèvres. Rien que pour son air de gamine émerveillée, cette expédition valait le coup. Et le sourire n'a pas fini de s'accrocher. À chaque fois que je la regarde, je me dis Attends de voir ce qu'on t'a préparé, ma cocotte. Le dimanche à 14h, tous les extraordinaires rejoignent Hansen sur le tarmac de l'aéroport de Bordeaux. Ce n'est qu'en voyant l'avion que Nabila comprend. Elle pousse un grand cri, puis elle se met à pleurer. C'est de la folie! Combien ça coûte un truc pareil? Et vous êtes certain que je vais tenir le coup? Diego lui répond que le prix ne la regarde pas, qu'elle est notre invitée, que bien sûr elle tiendra le coup, Ted en est garant. Il assure que contrairement aux apparences, tout est globalement très doux. La conclusion de Nabila est sans appel. Vous êtes des chaubastres, mais je vous adore. Alors nous formons un cercle autour d'elle, et j'en profite pour lui glisser. Alors, comme ça, toi aussi, tu t'es chopé une maladie vénérienne des yeux? Elle me regarde, éclate de rire, et me dit simplement « merci ». Ensuite, nous embarquons dans un Airbus A310. Destination, l'apesanteur. Nous ne partons pas dans l'espace, mais nous allons vivre la seule expérience permettant de recréer l'absence de gravité ressentie par les astronautes. Un vol qui suit une trajectoire en forme de cloche, plus communément appelé vol parabolique. Après avoir enfilé nos combinaisons grises, casquettes et chaussettes jaunes flashy, nous prenons place et l'avion décolle. Jusqu'ici, tout est normal puisqu'il s'agit d'un appareil classique. La différence, c'est qu'une partie de la cabine est débarrassée de tout obstacle, isolée des sièges par un filet et matelassée du sol au plafond afin d'accueillir les passagers en apesanteur. Le principe de ce vol nous est expliqué par Hansen en personne. Quand l'avion sera arrivé à 6000 mètres d'altitude, le pilote effectuera la fameuse manœuvre parabolique. Il cabrera l'avion et montera en flèche jusqu'à 8500 mètres. Ce que vous ressentirez à ce moment-là se nomme l'hypergravité. Vous aurez l'impression que votre corps pèse le double de son poids. Vous vous sentirez oppressé, un peu comme dans un rotor. Vous savez, ce manège de fête foraine qui tourne à grande vitesse et vous plaque contre la paroi. Pas sûr que tout le monde voit de quoi il s'agit, mais peu importe. L'important, c'est cette histoire d'hypergravité qui fait flipper Nabila.
Mais on ne risque pas de s'évanouir?
La sensation n'est pas très agréable, mais elle est supportable, d'autant que vous serez couché sur le sol pour cette partie-là, qui ne dure qu'une vingtaine de secondes. Certains pourraient avoir le mal des transports, mais rien de plus.
Je regarde autour de moi. Axel et Diego ont un sourire greffé aux lèvres. Bérénice et Côme boivent les paroles d'Hansen, qui continue son exposé.
Une fois à 8500 mètres, le pilote entame la phase zéro gravité en réduisant le régime des moteurs et en poussant progressivement le manche jusqu'à ce que l'avion passe en piqué descendant. Pendant cette phase de 25 secondes environ, nous serons tous en apesanteur.
Hansen laisse passer un instant afin que nous puissions savourer le mot. Apesanteur. Ce mot tant de fois fantasmé. Je suis certaine que chacun de nous le répète dans sa tête comme un mantra, comme un rêve sur le point de se réaliser. Puis Hansen reprend.
Ensuite, le pilote rétablira l'appareil à l'horizontale et le stabilisera à 6000 mètres. La parabole sera terminée.
Côme lève la main, affichant une mine déçue.
Mais alors, on n'aura que 25 secondes d'apesanteur?
Non, non, pas du tout. Nous allons enchaîner une quinzaine de paraboles. Vous aurez donc 15 fois 25 secondes étalées sur une heure. Ça passe extrêmement vite, mais vous aurez le temps d'en profiter.
Hansen poursuit son laïus, expliquant que l'avion sert non seulement à l'entraînement des astronautes, mais aussi à certaines expériences scientifiques visant à mieux comprendre l'effet de la gravité sur les organismes, et que les vols privés comme celui-ci servent à financer les dites expériences d'intérêt public. Puis il s'embourbe dans tout un tas de détails et je ne l'écoute plus. À mesure que l'équipage égrène les altitudes auxquelles nous nous trouvons, je prends conscience de la chance que j'ai d'être ici. Diego, dans le siège à côté du mien, a fermé les yeux et arbore un sourire serein. Je me penche vers lui, dépose un baiser sur sa joue. Et tandis qu'il me prend la main et la serre fort, le pilote indique qu'il est temps de nous diriger vers la zone d'évolution en apesanteur. Nous nous allongeons sur le sol capitonné, et Ted annonce que nous allons, pour commencer, faire une première parabole lunaire. Pour commencer en douceur, nous garderons une gravité équivalente à celle de la Lune. Vous aurez l'impression de ne peser qu'un sixième de votre poids, et vous constaterez que ça ouvre des perspectives inattendues. Vous vous souvenez des images des premiers pas sur la Lune? Eh bien, vous y serez presque. La parabole débute. D'abord, l'hypergravité. Ted avait raison. C'est assez désagréable, cette sensation d'être retenu au sol par un poids lourd, mais si on n'essaie pas de bouger la tête, c'est tout à fait supportable. Et soudain, la légèreté. Chacun se redresse, émerveillé par le spectacle de son propre corps qui se soulève. Nous nous regardons et éclatons de rire. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Cet état ne durera qu'une vingtaine de secondes, alors chacun se lance dans ce qui lui vient spontanément. Diego effectue des bonds jusqu'au plafond façon kangourou. Axel démarre une séance hilarante de pompe à une main en portant Koum sur son dos. Et tandis que Bérénice, agitée d'un fou rire extatique, n'arrive à rien d'autre que des mouvements désordonnés, Nabila et moi nous tenons par la main, faisant de grands sauts majestueux, tels des Armstrong et Aldrin un peu bourrés. Une fois la phase d'hypergravité revenue, allongée contre moi sur le sol, Nabila me dit en se marrant « Je me suis crue dans une version spatiale du générique de la petite maison dans la prairie. Tu sais, avec ces petites filles qui courent dans l'herbe. »
Et qui se cassent la gueule.
Exactement. Je me rends compte que moi aussi, je ris sans cesse. En fait, tout le monde débriefe cette première expérience avec son voisin le plus proche en étant mort de rire. On dirait des gosses déchaînés. Et qu'est-ce que c'est bon! Nous n'avons pas le temps de nous remettre de nos émotions que Ted annonce la première parabole 0G.
Vous aurez le temps de vous amuser sur les paraboles suivantes. Pour celle-ci, je vous conseille surtout de ne rien faire d'autre que ressentir ce qui se passe dans votre organisme. Laissez-vous porter, sans bouger, sans tenter de contrôler votre trajectoire. Profitez seulement de cette incroyable sensation, qui est bien difficile à décrire. Alors fermez les yeux, nous commençons.
D'abord, l'hypergravité qui fait râler Nabila, même s'il est visible qu'elle la supporte tout aussi bien que moi. Et tout à coup, l'impression de ne plus rien sentir, de s'élever comme dans un rêve, de n'être plus qu'une feuille de papier en lévitation. Dans la cabine, le silence est complet. Comme moi, les autres sont concentrés sur leur propre corps qui flotte. Et l'émotion est immense. On croit parfois que l'expérience de l'apesanteur est à classer du côté des bouffées d'adrénaline, des activités à sensations fortes telles les sauts en parachute. Mais ce n'est pas ça, non? C'est de la douceur pure, de l'émerveillement. Un bouleversement intérieur impossible à exprimer avec des mots. Depuis notre naissance, chaque action, chaque effort que nous faisons implique la notion de gravité, sans que l'on y songe. Que nous marchions, portions un objet lourd ou soulevions une simple plume, la sensation de poids est toujours là. L'idée même de sa disparition demeure théorique tant qu'on ne la vit pas. J'ai l'impression étrange d'être vide, et pourtant tellement présente. Cet abandon de son propre corps, c'est inoubliable. Lorsque la parabole s'achève, nous restons de longues secondes sans parler. Heureux de cet instant de plénitude. Je me tourne vers Nabila, ses yeux brillent. Nous nous redressons et je la serre dans mes bras. Elle me murmure un « merci » presque inaudible. Et je prends sa main dans la mienne. C'est beau ce moment. Chacun de nous sait bien qu'il s'agit sans doute de son dernier sursaut de vie. Les médecins parlent de quelques semaines, quelques mois tout au plus. Mais nous n'avons pas le temps de nous émouvoir. Le pilote annonce la prochaine parabole. Il est l'heure de jouer avec cet apesanteur mille fois rêvé. Sur la douzaine de phases 0G suivantes, nous expérimenterons toutes sortes de défis plus jubilatoires les uns que les autres. D'abord, le vol de Superman. Poings serrés, bras tendus vers l'avant, une minuscule impulsion du pied, et nous voilà de l'autre côté de la cabine, dans un soyeux effet de ralenti. Puis les saltos, les roulades aériennes, la prise de photos façon yogi flottant, ou dans des positions sexuelles impossibles à tenir dans la vraie vie.
Il faut voir le regard de Bérénice lorsque Nabila entraîne Koum dans cette direction scabreuse. Heureusement que les parois sont capitonnées et que les barres pour s'accrocher au plafond ou sur les murs de la cabine sont nombreuses. Sinon, nous atterririons tous dans des postures pour le moins dangereuses lors du retour de la gravité. Mention spéciale à l'épisode où Axel et Diego se sont servis de Koum comme d'un ballon. Le ballon était d'accord. Diego a saisi le corps recroquevillé de Koum, l'a poussé vers Axel, qui a réceptionné la passe juste à temps avant la fin de la pesanteur. Pour la plupart d'entre nous, le clou du spectacle a été le comportement des liquides. Il faut dire que contempler des sphères d'eau en parfaite lévitation a quelque chose de l'ordre de la magie. Je crois que c'est Axel qui a lancé fort à propos un « Wingardium Leviosa », cette formule qu'Harry Potter et ses amis utilisent pour soulever des objets dans les airs. Mais pour moi, la plus grande émotion était ailleurs. Ted avait précisé que nous pouvions emporter avec nous des objets mous ou des photos. Alors pour la dernière parabole, j'ai sorti une peluche râpée, moche, usée et magnifique. Quand le vieux mouton gris s'est mis à tourbillonner devant mes yeux, avec à son cou un médaillon contenant ma photo préférée de son propriétaire, j'ai demandé à Diego de prendre un cliché de moi, tout sourire. L'instant d'après, les larmes ont rempli mes yeux, ou plutôt se sont échappées dans les airs, comme par enchantement. J'ai tournoyé quelques secondes en serrant fort sur mon cœur le doudou de Michael. Et puis j'ai embrassé cette peluche dégoûtante et je lui ai murmuré « Ce n'est pas l'espace, mais c'est peut-être encore mieux. » C'est un cortège épuisé mais rempli d'images et de bonheur qui s'est ensuite retrouvé autour du pot de l'amitié et de la remise symbolique de médailles, animé par un Hansen visiblement ému lui aussi. Quand Nabila s'est avancée, il a été bien difficile de contenir l'émotion. Alors tout le monde lui a demandé un discours, espérant qu'elle nous tire de là par une boutade. Merci à vous tous, mes amis. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est au-delà de tout ce que je m'étais imaginé. Je voulais utiliser le reste de ma vie pour tenter de nouvelles choses, pour vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Eh bien, avec vous, c'est réussi. En quelques semaines, j'ai grimpé un imposant volcan et un robuste petit jeune. J'ai passé 2 jours dans une grotte infestée de blattes sans yeux. J'ai pleuré un peu, mais j'ai ri, beaucoup. Et aujourd'hui, je finis en beauté, comme on dit. Non, ne pleurez pas, s'il vous plaît, je ne suis pas triste. Je me sens riche, riche de vous, riche de tout ça. Et cette journée où je me suis échappée de la gravité dans tous les sens du terme, je peux vous dire qu'elle va rester au creux de mon cœur. Nous avons pris une dernière photo, comme un écho à celle prise par Ted là-haut dans l'avion. Sur ce cliché joyeux, Bérénice, Koum, Axel, Diego et moi entourons une Nabila hilare, flottant au centre de cette couronne humaine malhabile que nous formons. C'est la photo parfaite pour résumer notre aventure.
Espace, ton univers impitoyable. La lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir. Si un jour il s'éteint, vous aurez le temps de vous faire cuire des pâtes, mais pas de les manger. Les astronautes grandissent de 5 cm dans l'espace, puis rapetissent au retour. L'ISS est visible depuis la Terre. Si vous apercevez une étoile filante un peu mollassonne, c'est elle.